L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Elle va prendre dans quelques heures les rênes d'un énorme groupe qui pèse 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Hein, c'est Sodexo, où Sophie Bellon va donc succéder eh bien, à son père qui avait créé le groupe hein, eh bien, il y a quelques 50 années, donc eh bien, du côté de Marseille, 1966. Hein, groupe de services et de restauration coté au CAC 40. Sodexo, eh bien, en figurant parmi les plus grosses, appartient à ce qu'on appelle des entreprises familiales, oui, les entreprises familiales souvent mises en avant justement, qui réussiraient mieux justement face à la crise. Oui, l'entreprise familiale, est-ce que c'est l'anticrise? Question que je vais poser dans un instant à Philippe Dornano, président du directoire de Sisley, co-président du mouvement des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Christophe Sobiez, associé responsable du secteur PME et ETI dans le cabinet Deloitte, et puis Valérie Tandeau de Marsac, elle est avocate spécialiste des entreprises familiales, membre du centre d'expertise Jantet Family, professeur associé à l'EDEC au Family Business Center. Alors, qui est cette fille aînée de la famille Bellon, Sophie Bellon, qui va donc s'asseoir demain dans le fauteuil de son père, hein, âgé aujourd'hui de 86 ans, elle a 54 ans, elle va régner sur le premier recruteur privé de France, hein, 420 000 salariés dans le monde entier. Le portrait de Sophie Bellon avec l'enquête de Jean-Baptiste Huet.
Ne pas confondre arbre généalogique et organigramme. En clair, pas de piston, c'est depuis toujours le credo de Pierre Bellon. Si à 54 ans, sa fille Sophie va diriger 420 000 personnes dans 80 pays, c'est d'abord pour sa compétence. Maintenant plus de 20 ans qu'elle travaille dans le groupe, contrôle de gestion, recherche et développement, direction client, administrateur, elle connaît intimement ce paquebot. En fait, elle a grandi avec Sodexo. À la maison, pas de bureau pour son père qui s'installait dans le salon au milieu de tout le monde.
Donc je crois qu'on peut dire que l'on a grandi avec Sodexo.
Diplômée de l'EDEC, ses premières armes, elle les fait dans la banque, aux États-Unis, au Crédit Lyonnais, service des fusions et acquisitions, puis un passage dans la mode en tant qu'agent de grandes marques internationales et même un peu de théâtre. Xavier Fontanet, l'ancien patron d'Essilor, la croise encore souvent au conseil d'administration de L'Oréal. Pour lui, c'est une nomination idéale.
C'est quelqu'un qui est extrêmement posé, si vous voulez, et puis je pense que le choix, Pierre a tellement né sur les personnes, c'est un de ses grands talents, donc évidemment Sophie est évidemment un bon choix pour l'entreprise. C'est pas du tout le même talent que le père, elle est beaucoup plus posée, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est que d'abord elle connaît la maison puisqu'elle y a travaillé, mais elle a eu aussi une carrière au Crédit Lyonnais à New York, donc elle a son indépendance et puis tout ça se passe dans une très très bonne relation avec la famille, si vous voyez, parce que ce qui est aussi assez remarquable dans toute cette affaire, c'est que ça s'est passé harmonieusement.
Pas facile de s'imposer chez Sodexo dans les années 90. Les femmes à des postes de management se comptent sur les doigts d'une main. Même chose, 10 ans plus tard, dans les années 2000, lorsqu'elle prend une direction générale d'une filiale, elle se retrouve alors entourée de 20 hommes. Elle s'étonne de ne voir aucune femme siéger au comité de direction. Un directeur régional lui répond « Ce n'est pas un métier pour les femmes ». Quelques années plus tard, quand elle prend du galon, elle laisse derrière elle 5 femmes sur 13 directeurs régionaux. Aujourd'hui, Pierre Bellon a fait vider son bureau du 7e étage d'Issy-les-Moulineaux pour que sa fille s'y installe. Sa mission aujourd'hui, ardue. Garder le cap sur la stratégie de long terme, les valeurs de l'entreprise, tout en restant agile. Ses ambitions pour l'entreprise sont conséquentes et elle le dit elle-même, Sodexo a un potentiel de 50 fois le chiffre d'affaires actuel de 18 milliards.
Ouais, presque 20 milliards en 2015 justement. Alors c'est une grosse boîte bien sûr cotée. Il y a d'autres grosses entreprises familiales, JC Deco, Bolloré, Fleury Michon, Ricard, Hermès, Galeries Lafayette. Christophe Sobiez, elles ne sont pas toutes aussi grosses hein, ces entreprises familiales. On dit 80% des 120 000 entreprises françaises de plus de 10 salariés, ce sont des entreprises familiales.
Tout à fait. C'est effectivement la part très prépondérante du tissu économique français, qui sont pas encore, enfin qu'on commence maintenant à médiatiser comme tel, mais qui sont omniprésentes, qui sont le pilier de l'économie française.
Et parmi lesquelles, Philippe Dornano, il y a 4600 ETI. Beaucoup plus en Allemagne, beaucoup plus en Angleterre.
Hein. Oui, c'est assez intéressant parce qu'à la fois elles sont très performantes et puis on voit Sodexo, c'est une on est très fiers nous, de voir un succès comme celui-là, et en une génération, il faut le noter. Et en même temps, elles sont trop peu nombreuses quand on atteint la moyenne grande taille, c'est-à-dire la taille ETI, 4600 en France, 12500 en Allemagne, 10500 en Angleterre. C'est vraiment en même temps un point d'interrogation pour notre économie et un point sur lequel on pourrait faire mieux.
Oui, alors, comment s'organise la gouvernance, Valérie Tondeau-de-Marsac? Comment se transmet une entreprise familiale tout au long des générations? On entendait Jean-Baptiste Huet qui nous le rappelait, hein, Sophie Bellon, elle n'a pas toujours travaillé pour Sodexo. Elle a travaillé au Lyonnais, aux États-Unis, elle a travaillé aussi dans la mode, justement. Et elle est rentrée, donc, il y a 22 ans chez Sodexo, donc. Alors, comment ça s'organise?
Bah d'abord, ça se prépare.
Ouais.
Et puis, il y a deux questions, en fait, dans ce que vous dites. Il y a deux sujets. Le sujet de la gouvernance et le sujet de la transmission. Le sujet de la gouvernance, la particularité des entreprises familiales, c'est qu'il faut organiser aussi la gouvernance de la famille à partir du moment où la famille atteint une certaine taille, ce qui est le cas un peu ou prou au bout de deux ou trois générations. Et donc, la clé, c'est l'articulation entre la gouvernance de la famille et la gouvernance de l'entreprise. Puis, il y a un deuxième sujet, qui est celui de la transmission, c'est comment s'opère le passage d'une génération à l'autre. Et là, il y aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a un sujet évidemment fiscal qui est un gros sujet, mais sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez.
Christophe Sobiez, justement, comment est-ce qu'on choisit le responsable d'une boîte familiale? Donc Sophie Bellon, dans le cas de Sodexo, mais parlez-nous des autres. Hein. Elle a été choisie à l'unanimité après des réunions avec un facilitateur, un comité de sages. Donc voilà ce que racontait donc son père, Pierre Bellon.
Alors là, on est dans un cas de figure exemplaire, hein, parce qu'effectivement, ils le font sur base, et c'est ce qu'on observe de plus en plus, mais je pense que sa formule est très bonne, sur le fait de pas amalgamer l'arbre généalogique et le... déjà, il faut examiner...
Et l'organigramme.
Il faut examiner la famille et voir si effectivement, en interne, on a les ressources. Et c'est quelque chose sur lequel les entreprises familiales ont considérablement évolué. C'est plus quelque chose de complètement naturel et d'évident. Et puis, une fois qu'on a effectivement l'embarras du choix, il faut choisir le plus adapté. Et c'est là que anticiper, poser la question en amont et avoir des règles de gouvernance pour savoir qui est éligible, quelle formation, quel profil est extrêmement important, et plus on le fixe en amont du sujet, enfin de la date de la succession, de la date à laquelle se pose le problème de la succession, et plus on a des chances d'avoir quelque chose de paisible et de pertinent.
Valérie Tondeau-de-Marsac.
Oui, et d'ailleurs il y a une pratique qui s'est développée en France au cours de la dernière décennie ou les deux dernières décennies, c'est celle de ce qu'on appelle les chartes familiales, c'est-à-dire, et notamment un des sujets qui peut être traité dans la charte familiale, c'est justement celui que vient de décrire Christophe. C'est quels sont les critères qui permettent à un membre de la famille de se porter candidat pour exercer une fonction dans l'entreprise, en premier lieu, et évidemment, a fortiori, devenir le successeur à double titre, puisqu'en fait, ils sont successeurs capitalistiques, puisqu'ils vont hériter des actions de l'entreprise. Et puis, il y a la deuxième question, qui est celle de la succession managériale. En fait, il y a deux questions dans le même sujet.
Oui, comment ça se gère, une entreprise familiale, tout au long de des générations? Philippe Dornano, à la tête du CIS, qui est une entreprise familiale aussi.
C'est-à-dire, ce qu'on veut, en réalité, derrière toutes ces histoires familiales, c'est avoir du temps pour développer son entreprise.
Ouais.
En fait, le vrai problème, c'est qu'il faut avoir une certaine stabilité actionnariale pour développer des entreprises de taille mondial, sauf peut-être dans quelques domaines où ça va plus vite, ça suppose d'avoir plus de 30 ans, plus de 40 ans, sinon vous n'arrivez pas à ces tailles mondiales. Et donc ça pose le problème de la transmission, ça pose le problème des familles, ça pose le problème aussi de la stabilité de l'actionnariat et d'un management compétent. Plus l'entreprise grandit, plus c'est un management professionnel qui doit être mis en place. Il peut être familial ou non familial, hein, mais en tout cas il faut avoir à la fois un actionnariat stable et un management qui soit compétent pour gérer une entreprise des entreprises de ces tailles-là.
Ce qui est le cas de Sodexo, hein, qui a 37%, dont la famille Bellon a 37% du capital et un petit peu plus des droits de vote. Que faire des brouilles familiales, des rancœurs qui nécessairement, eh bien, apparaissent, hein, bien entendu. Une famille, c'est une famille. Il y a toujours des brouilles, toujours des rancœurs. Comment est-ce qu'on fait avec cette donnée? Christophe Sobiez, de chez Deloitte.
Mais je pense qu'encore une fois, si on attend que ça barde, C'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas fixé les règles, alors que si on fait une espèce de testament d'exercice à froid et qu'on pose des règles qu'on introduit au niveau du conseil d'administration ou dans d'autres organes des personnes tierces, il y a des administrateurs indépendants, des gens neutres entre guillemets, c'est beaucoup plus facile une fois qu'il y a des tiraillements de rester dans une dynamique de dialogue et de trouver des solutions. Alors que quand ça barde en circuit fermé, généralement ça peut être très très dévastateur.
Préjudiciable, Valérie Tendon de
Marsac. Moi, je vais même rajouter une idée qui est rarement développée parce qu'elle est un petit peu paradoxale, mais c'est que la crise, d'ailleurs c'est un peu toujours la même chose, hein, la crise c'est aussi une opportunité de changer et de dépasser justement le conflit. Donc il n'y a pas que du négatif aux conflits familiaux. Quand on arrive à les résoudre, évidemment, ça peut faire progresser l'ensemble du système formé par l'interaction entre l'entreprise et la famille.
Et ça doit être quoi le comportement à avoir dans une boîte pour l'héritier au moment où il arrive, hein. Ce que dit Sophie Bellon, une fois que j'ai été dans l'entreprise, j'ai surtout cherché à être moi-même, dit-elle. Un héritier fait toujours l'affaire ou pas,
Philippe? Non, toujours l'affaire. Et
on se souvient un peu des débuts difficiles d'Arnaud Lagardère à la succession
de Jean-Luc. Et pour répondre à votre question, il faut être professionnel. Ah. Mais et avoir une expérience de l'entreprise, être accepté par l'ensemble de l'entreprise. Mais je pense aussi que les dissensions, et malheureusement, et c'est le combat du métis.
Le métis, c'est l'organisme que vous co-présidez, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire.
C'est qu'une partie de ces problèmes peuvent être interne à la famille, et dans ce cas-là, il faut le dire aussi, parfois l'entreprise doit être vendue, c'est souhaitable et préférable. Mais il y a aussi des cas qui sont extérieurs et qui sont la fiscalité sur les parts d'entreprise qui, elle, déséquilibre justement ces rapports à l'intérieur des familles et pousse des entreprises qui auraient pu continuer, se développer et devenir des entreprises de grande taille
à se
vendre, qui créent des dissensions artificielles. Et c'est là nos 4600 ETI en France contre 12500 en Allemagne. C'est ça cet écart. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour en plus un rendement qui est assez faible pour l'État.
C'est ce que vous voulez nous expliquer tout à
l'heure. Ça, c'est un autre sujet fiscal. Moi, je voulais vous parler de la fiscalité allégée sur la transmission, parce qu'il y a des incitations à transmettre au sein de la famille.
Est-ce que le taux de transmission...
Ce dont vous parlez, là, c'est l'ISF. L'ISF est un facteur de déséquilibre et d'interdépendance, en fait, au sein des entreprises familiales. Donc, de déséquilibre, parce que certains membres de la famille ont patrimonialement des actifs qui valent très cher, avec des revenus qui quelquefois sont pas du tout à la hauteur en face. Donc ça crée une distorsion, si vous voulez, en fait, et la distorsion, elle provient aussi du fait, évidemment, que ceux des actionnaires familiaux qui exercent des fonctions de direction dans l'entreprise bénéficient souvent, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, de l'exonération au titre de l'outil professionnel, alors que les autres n'en bénéficient pas. Donc ça crée une distorsion, si vous voulez, entre les actionnaires familiaux, qui, elle, est vraiment génératrice de tensions qui, eux, peuvent aboutir à des conflits d'intérêts. Ceux qui ont intérêt à sortir ou avoir de la liquidité parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acquitter de l'ISF, et ceux qui ont un intérêt, comme le disait Philippe Dordano, à préserver la stabilité à long terme du capital familial.
Bien sûr, oui. Avec un taux de transmission, Christophe Sobiès, qui est assez faible en France, à peine 15%, plus de 50% en Allemagne, 70% en Italie.
Hein. Oui, c'est effectivement nos deux cailloux dans la chaussure. En France, on a peu d'ETI, enfin en tout cas bien moins qu'en Allemagne et au UK, finalement on réussit pas si bien que ça en matière de transmission intrafamiliale, mais on y travaille, hein. Je crois que tous on s'est penché sur le berceau et on essaye de faire en sorte que ça s'améliore, parce que c'est quand même c'est pas uniquement une posture, c'est extrêmement important pour l'économie, pour sa pérennité, pour sa vivacité, d'avoir cette fameuse pérennité transgénérationnelle, quoi.
Justement, Philippe Dordano, on dit que les entreprises familiales, elles résistent davantage à la crise, elles affichent une croissance bien supérieure à la moyenne nationale, qu'elles résistent beaucoup plus également en bourse, hein. C'est quoi les raisons de ce succès?
Je pense que cette performance, elle est liée d'abord à une passion du produit. On le voit dans les ETI, il y a vraiment des entreprises qui ont pris dans des domaines particuliers des très fortes expertises, et on le voit en France, mais on le voit aussi en Allemagne, c'est le concept des champions cachés. C'est aussi lié à une forte communauté humaine. Ce sont des entreprises dans lesquelles on arrive à allier une proximité et une certaine sécurité. Et donc c'est une force qui vous donne une plus grande efficacité de toutes vos équipes et une plus grande motivation. On a fait une étude avec Sciences Po notamment sur ce sujet qui était très intéressante et qui montrait le très fort affectio sociétatis des salariés d'entreprises familiales. Ce sont aussi assez curieusement des entreprises qui sont très exportatrices parce qu'en fait comme elles ont une réticence à la croissance externe, elles aiment pas s'endetter, elles sont à la fois innovantes et assez prudente. Du coup, si vous faites pas de croissance externe, si vous spécialisez, ben, il faut aller à l'exportation. Elles vont donc pas mal. Elles sont actives à l'exportation. Dans mon domaine de la cosmétique, on a des taux de 85%. Une entreprise qui réussit en cosmétique, elle fait 85% de son chiffre d'affaires à l'exportation, ce qui est notre cas. Donc voilà, ce sont toute une série de facteurs forts. J'ajoute à ça, et pour en revenir à ce qui a été dit, que en fait les solutions pour développer les entreprises familiales sont connues. Et elles sont appliquées dans la plupart des pays européens. Il y a eu un choix à partir de la fin des années 90 de vraiment repenser le problème de la transmission des parts d'entreprise. Le taux actuel de transmission en Europe, c'est 5%. Il y a eu un choix aussi de ne pas taxer les parts d'entreprise avec des impôts type ISF, puisque aucun pays européen ne le taxe. On voit donc que quand les entreprises sont placées dans ces conditions et avec des bonnes pratiques de gouvernance, elles peuvent se transmettre plus efficacement. Ça nous fait plus d'ETI.
Et l'entreprise familiale, Valérie Tondon, de Marsac, vous qui êtes professeur associé à l'EDEC, il y a un modèle familial. Est-ce qu'elles reviennent un petit peu sur le devant de la scène? Est-ce qu'elles reviennent un petit peu à la mode? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt? Est-ce qu'il y a un modèle finalement utiliser pour les autres entreprises?
On voit venir, puisque c'était le livre qu'on a publié avec l'EDEC l'année dernière, l'entreprise familiale, un modèle pour l'avenir et pour tous. Donc en effet, oui, moi je pense, en tout cas, je suis même totalement convaincue que c'est un modèle. C'est un modèle parce que ces caractéristiques sont en gros l'envers de tout ce qu'on a identifié comme étant les facteurs de la crise. Puisque si on dit rapidement, elles sont faiblement endettées. Donc ça, c'est quand même une réponse à la financiarisation de l'économie. Elles sont orientées long terme, réponse au court-termisme des marchés. Le facteur humain est chez elles essentiel, puisque elles préservent le capital humain, y compris en période de crise. Elles ont des valeurs qui sont très très fortes, d'autant plus fortes qu'elles sont incarnées par les personnes de la famille, ce qui donc autorise un management par les valeurs qui est particulièrement efficace.
Plus éthique.
Ouais. Et qui pourrait d'ailleurs expliquer, en tout cas c'est ce que dit la recherche et c'est ce qu'elle tente à montrer, leur meilleure résilience, puisqu'en fait elles ne sont pas plus performantes en toute période, mais elles sont plus résilientes en période de crise. Donc la meilleure performance, elle est spécialement en période de crise, parce que dans les autres circonstances, c'est à peu près pareil.
Mais comment, dans ce contexte de financiarisation de l'économie, de mondialisation de l'économie, tiens, Christophe Sobiez, donc associé chez Deloitte, est-ce qu'il est difficile de concilier le contrôle d'une entreprise familiale par les héritiers du fondateur, et ce qui sera le cas de Madame Bellon, Sophie Bellon, avec donc cette économie mondialisée finalement, où tout est peut-être dilué? Comment ça peut se passer? Sodexo, on peut parler de Kering aussi, on peut parler également de JC Deco, oui, Valérie Tondon.
La façon dont elle se préserve, c'est qu'en fait, effectivement, Philippe Dornano l'a dit tout à l'heure, le profil type des entreprises familiales, c'est ils sont sur des marchés de niche. Et ils sont donc vraiment leaders sur une niche. Et donc c'est ça qui leur permet en fait d'aller chercher la croissance à l'international, parce que sur un marché niche en fait la croissance effectivement elle est à l'international. Philippe l'a très bien
alors
dit.
Alors Philippe Dornano, Christophe Sobiez de Deloitte.
Je crois que surtout il faut qu'on revienne sur ce sujet du long terme. C'est des entreprises bâtisseurs. Quand mon père a créé Sisley, il avait 48 ans. Et il s'est pas dit je vais faire une start-up, c'est très à la mode, et c'est très bien d'ailleurs, et je vais la revendre dans 10 ans à un gros concurrent et j'aurais fait fortune. Il a créé dès le début, son idée c'était de construire une marque mondiale, et c'est justement cette ambition de bâtisseur qu'il faudrait qu'on porte plus en France, pas seulement d'avoir des start-up, mais aussi que ces start-up deviennent, en leur donnant le temps de le devenir, des grandes entreprises. Alors certaines y réussiront, d'autres n'y réussiront pas, mais on peut avoir tout. On est un pays qui est inventif, qui est très bien placé, qui a un bon système éducatif, qui a des bons équipements. On pourrait développer plus de ces entreprises-là avec un sens du long terme.
Christophe oui. Sobiès, Deloitte.
Non, mais effectivement, enfin, je pense qu'entre Valérie et Philippe, tout a été dit, mais une entreprise familiale, elle se crée si effectivement, à un instant T, il y a un individu dans la famille qui a un esprit entrepreneurial fort, et elle perdure et elle continue à se développer, si précisément on garde cet esprit entrepreneurial, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on pourrait effectivement le laisser s'assoupir et s'amoindrir. Et dans les entreprises familiales très performantes, c'est cette vivacité, c'est le cas chez Mullier, c'est le cas dans toutes les grandes entreprises, dans les grands groupes familiaux, cet esprit entrepreneurial, et Sophie Bellon réussira si effectivement elle arrive avec un souffle nouveau. Alors, et on le disait dans le portrait qui était dressé d'elle, on disait qu'elle arrivait avec un apport nouveau, une personnalité nouvelle.
Alors, elle arrive, Sophie Bellon, et oui, parce que les entreprises familiales, finalement, il y a assez peu de femmes à la tête, hein, 12% de femmes à la tête d'entreprises familiales. Ne parlons pas du CAC 40, mais il y aura peut-être un avant 2016, un après 2016, puisqu'en 2016, il y aura deux femmes à la tête du CAC 40, Madame Kocher, donc à la tête de Engie, ex-GDF Suez, et donc Sophie Bellon à la tête de Sodexo. Il y a encore du boulot, hein,
Valérie Marsac. Oui, il y a du boulot. C'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle Vox Femina, parole d'expert au féminin, pour promouvoir la voix des femmes dans les médias.
Voilà. Oui. Pourquoi il y a aussi peu de femmes dans les entreprises familiales, Philippe Dornano?
Alors, dans les entreprises familiales, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a justement plus.
C'est vrai.
Il y en a plus, justement, parce que la problématique se pose. Le métier, d'ailleurs, que je co-préside, je le co-préside avec Elisabeth Ducoté, la présidente de Tuan, une autre UTI, un autre fleuron familial de Saint-Étienne et familial
tissu intelligent.
On voit donc que c'est je pense qu'au contraire l'entreprise familiale est susceptible de plus ouvrir les postes de direction aux femmes. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que les femmes ne soient pas dirigeantes? Non.
Bon, Sophie Bellon, elle va faire des étincelles à la tête de Sodexo.
On espère.
Oui, on y croit très fort.
Elle a toutes les armes. On lui souhaite bonne chance. Voilà donc une nouvelle femme à la tête. Grosse boîte du CAC 40, une entreprise familiale, Sodexo, avec ce mardi la transmission de Pierre, le fondateur, qui a 84 ans, à sa fille qui en a 54, justement, groupe qui pèse 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Merci à tous. Philippe Dornano à la tête du Sisley, coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Christophe Sobiès, associé responsable du secteur PME ETI chez Deloitte. Et puis Valérie Tondeau de Marsac, professeur associé à l'EDEC, qui est également avocate chez Jantet Family, avocate spécialiste des entreprises familiales. Rediffusion tout à l'heure à 23h sur BFM Business de toute l'émission. Hein. Les 35 heures, les entreprises familiales, puis à tout moment, bien sûr, sur le site internet. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain, mardi, à 19h en direct.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.